chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. C'est une ravissante jeune femme qui pose pour Madame Vigier Lebrun. Elle est assise dans un canapé rouge cramoisi et s'appuie sur un gros coussin brodé d'or. Sa robe de mousseline blanche est ceinturée par un gros camée. Elle a de longs cheveux et un air un peu mélancolique, comme si elle imaginait l'horreur des années révolutionnaires qu'elle s'apprête à vivre. Il s'agit du portrait de l'épouse de Philippe Égalité, dont les pérégrinations sauté par Vincent Mélan dans Point de vue. La duchesse d'Orléans arrêtée à la frontière. Le portrait de la duchesse d'Orléans par Madame Vigier Lebrun, celui du Louis XIII par Philippe de Champaigne, le livre de comptes du château d'Amboise provenant de la succession du comte de Paris ont été classés par le ministère de la Culture. Elle ne repartira plus en exil. L'épouse de Philippe Égalité, la dernière descendante des bâtards de Louis XIV et de Madame de Montespan, la mère de Louis-Philippe, tout au moins son portrait, par Madame Vigier Lebrun, n'est plus autorisée à quitter le territoire français. Ainsi en a décidé le ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui a signé l'arrêté de classement de cette toile provenant de la succession du comte et de la comtesse de Paris. Peinte peu avant la Révolution, elle avait été offerte par la duchesse d'Orléans à l'une de ses dames d'honneur. Les descendants de la dame d'honneur avaient rendu la politesse à ceux de la duchesse d'Orléans en leur offrant à leur tour ce portrait à la fin du XIXe siècle. La toile avait alors parcouru l'Europe, installée dans les salons du manoir de Wood Norton en Angleterre, puis dans le salon de musique du manoir d'Anjou à Bruxelles. Et enfin, à la Quinta do Arinho, les nombreuses demeures d'exil de la famille d'Orléans. Cette toile exceptionnelle était rentrée en France dans les années 80, lorsque le comte de Paris avait vendu sa résidence portugaise. Elle faisait partie des 200 objets initialement donnés par le prince à la Fondation Saint-Louis et restitués à ses 11 héritiers par la décision du tribunal de grande instance de Paris. Ils seront vendus le 29 septembre à Paris chez Sotheby's.
Thank you.
Retirer de la vente ce tableau qui est un des chefs-d'œuvre de Madame Vigier-Lebrun fera l'objet d'une transaction entre les héritiers du comte de Paris, l'État français, un mécène ou un collectionneur privé. Reste à déterminer sa valeur. Les estimations données par les maisons de vente ne tiennent pas compte de la valeur historique des œuvres et dans ce cas, elle est exceptionnelle. En 2004, le musée du Louvre avait ainsi acquis une autre toile célèbre de la collection du comte de Paris, le portrait du duc d'Orléans par Ingres, pour un montant de 11 millions d'euros, financé par le mécénat de la société AXA. Fleur Pellerin a aussi classé deux autres pièces qui devaient être mises en vente par Sotheby's. Le très spectaculaire portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne, qui pourrait intéresser le château de Versailles, et le carnet de compte du château d'Amboise. Les objets classés seront exposés chez Sotheby's à Paris durant 10 jours au mois de septembre 2015, en même temps que ceux qui seront vendus.
Ist dann der Feiger erst.
Au mois de septembre 2015, le même Vincent Mélan, rédacteur en chef Royauté, deux points de vue, se rendait chez Sotheby's pour contempler les derniers trésors du comte et de la comtesse de Paris. L'exposition est désormais ouverte au public. Les 200 objets d'art qui se trouvaient depuis plusieurs années au cœur d'un litige entre les héritiers du comte et de la comtesse de Paris sont exposés chez Sotheby's durant 10 jours. Leur vente aura lieu les 29 et 30 septembre 2015, l'unique et dernière occasion pour le grand public d'admirer cette collection royale. Il est 18h. Les portes de Sotheby's, la maison de vente parisienne, ne sont pas encore officiellement ouvertes pour le cocktail. Et déjà, des dizaines de curieux ont réussi à se glisser dans les salles. Le bouche à oreille a fonctionné et tous veulent, avant les autres, apercevoir et admirer la collection mystérieuse dont on parle tant depuis plus de 20 ans. Les trésors du comte et de la comtesse de Paris. 200 objets et tableaux dont la provenance est illustre. Ils ont été au cœur d'un procès qui a opposé feu le comte de Paris et certains de ses enfants durant près de 20 années. Et comme toujours en France républicaine, les souvenirs de la royauté déchaînent passions et commentaires, plus ou moins bien informés d'ailleurs. Certains suggèrent que l'État aurait dû tout acheter, d'autres déplorent que certains ensembles comme les 40 aquarelles historiques peintes par le prince de Joinville, troisième fils du roi Louis-Philippe, soient dépareillées. Certes, mais même si les 11 héritiers du comte et de la comtesse de Paris les avaient conservés, il aurait de toute façon fallu les diviser entre eux. Cette vente marque le point final d'une succession et d'une querelle qui dure depuis des décennies.
Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Des Lebens als Weiser mich freuen und wie Elysium sein, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Des Lebens als Weiser mich freuen und wie Elysium sein, wie Elysium sein. Im Elysium sein. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund, schon wieder gesund, schon wieder gesund.
Le litige débute du vivant du comte de Paris en 1993. En accord avec son épouse, il décide de confier à Sotheby's la vente du mobilier de la propriété que la famille possédait au Portugal. Près de 300 lots de meubles, tableaux, livres, pièces de vaisselle ou d'argenterie qui meublaient autrefois la Quinta do Arino à Ranolas, près de Sintra. Cette quinta avait été la résidence des dernières années d'exil de la famille de France de 1946 à 1951. Rentré en France, le comte et la comtesse de Paris avaient choisi de la conserver comme maison de vacances. Finalement, certains revers de fortune et l'éparpillement dans toute l'Europe de leurs nombreuses descendances les avaient contraints à la vente. Le mobilier, composé presque exclusivement de portraits de famille, de meubles de provenance royale et de vaisselle aux armes, avait pris le chemin de Monaco. Sotheby's n'avait à cette époque pas le droit de vendre aux enchères en France pour être dispersé aux plus offrants. Joker, s'étaient alors écriés plusieurs des enfants du comte et de la comtesse de Paris. Ces objets sont des souvenirs de famille. De saisie, en référé, la procédure avait duré 3 ans, avant que la vente ne se déroule finalement en 1996. 2 autres dispersions devaient suivre. L'une, 1 an après la mort du comte de Paris à Drouot en 2000, et la seconde chez Christie's en 2008. Entre-temps, les héritiers du comte de Paris avaient enclenché une procédure afin d'obtenir la restitution des objets les plus prestigieux de la collection familiale donnés par leurs parents en 1975 à la Fondation Saint-Louis qui gère le destin du château d'Amboise et de la chapelle royale de Dreux. En 2013, le tribunal de grande instance de Paris leur a donné raison. Et ces trésors sont aujourd'hui exposés chez Sotheby's où aura lieu la vente les 29 et 30 septembre 2015. Les défenseurs du patrimoine peuvent d'ores et déjà se rassurer. Les chefs-d'œuvre sont à l'abri. 3 d'entre eux ont été classés trésors nationaux. Le premier, le portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne, appartient à la famille d'Orléans depuis la fin du règne de Louis XIV. Il se trouvait à cette époque à l'hôtel de la Vrillière, notre actuelle Banque de France, près de la place des Victoires. Il reste dans les lieux lors de la vente de l'hôtel en 1713 au comte de Toulouse, l'un des princes légitimés nés des amours de Louis XIV et de Madame de Montespan. Sa petite fille, Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, hérite de la demeure et de son mobilier en 1793, à la mort de son père, le duc de Penthièvre. Elle a épousé le duc d'Orléans. Philippe Égalité votera la mort de Louis XVI et lui aussi sera guillotiné. La Révolution va bouleverser leur existence. Elle sera contrainte à l'exil pendant près de 20 ans. En 1814, lors de la Restauration, elle rentre en France et retrouve une partie de ses biens, dont ce tableau, qui depuis est resté dans sa descendance. Le deuxième trésor est justement le portrait d'Adélaïde par Madame Vigée-Lebrun. Le tableau est séduisant et susciterait sans doute bien des convoitises à l'étranger. Mais voilà, ces 2 toiles n'ont pas le droit de quitter le territoire national et d'ailleurs, il semble bien qu'elles aient déjà été acquises par l'État. Le troisième trésor national est un peu plus sévère, puisqu'il s'agit du livre de comptes du château d'Amboise. Le classement de ces trois lots n'empêche pas les musées d'user d'une autre prérogative, la préemption. Le mécanisme est simple. Un discret représentant du ministère de la Culture est présent dans la salle au moment de la vente. Et lors de l'adjudication au plus offrant, il se contente de lever la main et de prononcer cette phrase. Préemption pour le musée de... Le musée se substitue alors à l'acheteur. La seule contrainte est d'avoir bien sûr réuni un budget assez conséquent pour permettre de financer l'achat à des prix souvent élevés. Et beaucoup espèrent que l'un ou l'autre des musées français préemptera certaines pièces, les plus belles. Les magnifiques aquarelles de Louis Carogis, dit Carmontel, exposées au centre du labyrinthe de parois fleurdelysées, créées par Patrick Ourcade, responsable de la mise en scène de cette exposition, suscitent toutes les convoitises. Deux d'entre elles, les gentilshommes du duc d'Orléans en habit de Saint-Cloud et la société du Palais Royal, sont exceptionnelles, tout comme le destin de leur auteur. Louis Carogis naît en 1717 à Paris. Fils d'un cordonnier, il devient topographe, professeur de mathématiques et finalement organisateur de certaines fêtes données par les princes d'Orléans à la fin du XVIIIe siècle. L'aquarelle est son hobby. Il dessine son époque, ses proches et les princes qu'il côtoie, comme d'autres écrivent leurs mémoires. Plus de 600 aquarelles sont répertoriées à sa mort, à Paris, en 1806. Elles sont acquises par un de ses proches, puis transmises à un étrange abbé de la Messangère, devenu sous la Restauration le créateur d'un journal de mode. Certaines d'entre elles, notamment les 11 qui figurent dans la collection Orléans, sont cédées à des particuliers. À la mort de l'abbé, la plus grande partie de la collection est vendue à un couple d'aristocrates écossais qui les transporte dans son château des Highlands. C'est là que le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, les rachète avant de les rapporter en France. Elles sont toujours exposées à Chantilly. Et bien sûr, chacun imagine que le meilleur destin possible pour les 11 aquarelles de la collection Orléans serait de rejoindre les collections du château de Chantilly, léguées par le duc d'Aumale à l'Institut de France. Il est toujours possible de le souhaiter, en attendant le résultat de la vente. Pour les membres de la famille de France venus discrètement admirer ses œuvres, une dernière fois, ces aquarelles sont un souvenir. Contrairement aux grandes toiles entreposées depuis près de 40 ans dans des garde-meubles, elles se trouvaient dans l'appartement de feu la comtesse de Paris, rue de Miroménil. Nombre des petits princes ont mangé de la mousse au chocolat sous l'œil impassible de ces élégants du XVIIIe siècle. La princesse Hélène, comtesse de Limbourg-Stirum, ne peut écarter un nuage de nostalgie. Peu importe la qualité de ses œuvres, pour moi, ce sont des objets de la vie quotidienne que nous avons connus au manoir du Corvolant dans les années 50, puis chez maman, rue de Miroménil. Pourquoi vendre alors, diront certains, et comment faire autrement, avec 11 héritiers et 200 objets dont il est difficile de connaître le prix réel tant la valeur purement marchande s'enchevêtre avec la plus-value historique, sans parler des deux grands tableaux classés qui à eux seuls doivent représenter la moitié de la valeur de la collection. D'autres membres de la famille d'Orléans sont venus discrètement le matin, en dehors des heures de vernissage officiel. La princesse Chantal, le prince Henri, actuel comte de Paris. D'autres viendront, bien sûr, durant les 10 journées d'exposition de la collection. Tous seront présents, comme les milliers de curieux et de collectionneurs désireux de contempler le ravissant tableau de l'épicier illustrant la naissance du futur Louis-Philippe. Le portrait d'Henri IV, par France Pourbus. Les grandes aquarelles d'Eugène Lamy, racontant la vie au palais des Tuileries sous la monarchie de Juillet. Certains, comme la princesse Maria Pia de Savoie, le soir du vernissage, seront intrigués par des reliques incongrues, comme ces deux fragments tout noircis du manteau de Saint-Louis, pillés dans son caveau lors de l'exhumation des rois de France à Saint-Denis en 1793. Et c'est pour cette raison que Sotheby's a choisi de présenter ces objets non pas durant 2 jours, comme le veut généralement l'usage des ventes aux enchères, mais pendant 10 jours, jusqu'au 28 septembre 2015. Les derniers trésors des rois de France étaient à Paris, pour encore quelques jours. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera dans une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée, pour vous, par Roland Richard, dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.